Le musée de Salagon à Mannes, c'est un musée avec des expositions tout au long de l'année, un prieuré d'époque Renaissance, une église romane, mais ce sont aussi 6 hectares de jardins. Clémentine Neuveglise, responsable de ces jardins depuis 2 ans, présente ces espaces naturels soignés, organisés autour de plusieurs thèmes, l'histoire médiévale, les voyages, les plantes locales ou encore l'odorat.
Les jardins ont été créés dans les années 80 et ils ont évolué. Et le dernier jardin qui a été créé, il a été créé dans les années 2000-2005.
Que représentent ces jardins en termes de surface sur le musée ?
Alors, donc les jardins font 6 hectares, dont 2 hectares de vrais jardins botaniques. Donc il y a 5 petits jardins à thème qui évoquent donc les plantes utiles à l'homme sur des axes historiques. On a un jardin médiéval, des axes géographiques, on a un jardin de voyage donc, qui montre l'origine des plantes, un jardin de plantes locales qu'on appelle le jardin des simples, et on a un petit jardin ludique, le jardin de senteur, avec que des plantes à odeur. Donc ça, c'est vraiment les 5 petits jardins à thème très soignés, étiquetés scientifiquement, puisqu'on est un jardin botanique. Et ensuite, on a autour de Salagon des prairies, des bois, des champs d'aromatiques et de lavande, qui sont un petit peu plus libres.
Vous avez spécifié botanique ?
Botanique, alors la botanique, c'est la science et l'étude du végétal. Donc les plantes ont un nom latin qui peut paraître un peu barbare. Elles ont un nom français aussi, et donc les deux sont présents sur les étiquettes. Ça permet de les identifier avec précision et de ne pas se tromper. On a même des étiquettes avec les noms provençaux dans le petit jardin des simples.
On va revenir sur ces différentes thématiques de jardin. Pour préciser, tous les jardins sont accessibles à l'année au public ?
Alors oui, le musée et le jardin sont ouverts toute l'année, sauf un mois et demi en hiver. Mais on est un jardin qui est plus intéressant à visiter entre le printemps et l'automne. L'hiver, il y a quand même très peu de choses à voir, même si c'est toujours très agréable. C'est vraiment un jardin d'été, principalement.
Et pour s'occuper de 6 hectares de jardin, il faut une équipe de personnes qui travaillent au quotidien. Comment ça se passe, le travail du quotidien ? Combien y a-t-il de personnes ? Et j'imagine aussi qu'il y a des tâches spécifiques.
Oui. Donc, on est une équipe de 3 jardiniers et 1 pépiniériste. Et récemment, on a une personne en plus qui est pour l'instant en CDD. Le pépiniériste sème les plantes tous les ans pour les installer ensuite dans les jardins. Et il produit aussi des plants pour le point de vente, puisqu'on vend quelques plantes emblématiques des lieux. Voilà, et les jardiniers, ils s'occupent de plein de choses. Ça va de l'étiquetage scientifique à la tonte. Enfin, voilà, ils ont des métiers assez divers.
Il faut des connaissances spécifiques pour s'occuper d'un tel jardin aussi diversifié ?
Plutôt oui, mais là, on va dire que c'est moi qui fais le rôle de, le rôle de contrôle scientifique. Et les jardiniers, après, ce sont des passionnés qui adorent leur métier et qui se plongent à fond dans leur métier. Je dirais qu'il faut un bon sens de l'observation, parce qu'il faut être capable de distinguer des plantes qui parfois sont très proches. Et voilà, et parfois, même sans connaissance scientifique, quand on a un bon œil, on est bon dans ce qu'on fait.
Et vous avez des connaissances scientifiques, en l'occurrence, vous avez une formation autour des plantes ?
J'ai fait un morceau d'école de paysagisme pour comprendre comment se structurent les jardins. Et j'ai fait une formation très spécialisée en botanique pratique qui se passe à Besançon. Voilà, et j'ai un titre de jardinier botaniste. Ce n'est pas du tout chercheur, c'est celui qui fait le lien entre le chercheur et le jardinier.
Et les jardins sont directement en lien avec le musée de Salagon.
Donc le musée est un musée d'ethnologie de la Haute-Provence. Donc on a des collections de charrettes, de fourches, de costumes de prêtres, de plein de choses rigolotes. Et les jardins sont un petit peu en miroir par rapport à ce musée, puisqu'ils parlent des plantes utiles à l'homme. dans la région, donc dans les Alpes de Haute-Provence, mais on a ouvert au monde entier. Donc voilà, mais on appelle ça l'ethnobotanique. Les plantes utiles à l'homme ou qui ont une importance symbolique, sacrée ou autre.
Et nous allons désormais passer à la présentation de chacun de ces 5 thèmes de jardin.
On commence par le jardin médiéval, le départ de toute chose, puisqu'en fait, on a une église du XIIe siècle. Donc on a créé un jardin médiéval qui lui répond. Et ce sont des plantes classées par usage. Donc on a des plantes médicinales, des plantes alimentaires. Donc avant la découverte de l'Amérique, on n'avait pas ni de tomates, ni de courgettes, ni de poivrons. On mangeait pas de ratatouille, clairement, en Provence. Donc on mangeait plutôt des choux, des céréales broyées, du pain, énormément de pain. Et puis on a le petit jardin de sorcière. Donc on peut aller voir, par exemple, on peut aller voir la mandragore, qui est une plante assez discrète, mais qui a une histoire assez rigolote, assez sulfureuse.
Un deuxième thème.
Donc on a le petit jardin de la Noria, qui est aussi en lien avec la période médiévale, qui est un jardin sorti d'une enluminure, avec donc tous les codes du jardin médiéval, donc des berceaux, des bancs sous des tonnelles, un jardin clos, un jardin très fleuri au printemps.
Pourquoi jardin de la Noria ?
Ça fait référence à un puits qui était présent sur les lieux, qui est assez ancien, dans lequel il y avait une roue, une espèce de roue à eau qu'on appelle une noria. Voilà. C'est un petit jardin qui est plus pour la promenade, qui est assez agréable, qui est fleuri, qui est ombragé en été, qui est assez frais. Et celui-là, il n'est pas étiqueté, mais c'est un petit bonus, on va dire.
Donc, deux premiers jardins et on arrive au troisième, le jardin des temps modernes.
J'aurais envie de rebaptiser le jardin des voyages et qui décrit, qui est un peu parlant, qui décrit l'origine des plantes. Donc, on a des plantes alimentaires, des plantes de la couleur pour faire des teintures, des plantes à épices, des plantes médicinales qui sont classées par origine géographique. Donc on a le continent asiatique, le continent américain, le continent européen, le continent africain. Par contre, il nous manque l'Australie, parce que c'est un peu difficile de faire pousser les plantes australiennes, mais on a un eucalyptus pour le représenter.
Mais en l'occurrence, il y a des plantes de ces différents coins du monde, différents continents.
Oui, tout à fait. Et du coup, on peut se rendre compte que la tomate vient d'Amérique, que le basilic vient d'Inde, que l'artichaut vient du Moyen-Orient, tout ce genre de choses. On peut visiter ce jardin librement en lisant les panneaux. Il y a des étiquettes pour connaître le nom des plantes, mais si on veut en savoir plus, c'est bien de faire la visite des jardins, qui dure entre 1 et 2 heures selon le type de visite. Ce jardin des temps modernes est organisé autour de canaux, avec de l'eau, des plantes aquatiques, des grenouilles, des poissons. Donc les enfants aiment beaucoup ce jardin. Et il est très agréable en été, non seulement parce qu'il est frais et qu'il y a du gazon sous les pieds, donc c'est assez agréable quand on est en Méditerranée, mais aussi parce que c'est le moment où il est le plus fleuri. On a plein de plantes qu'on rentre dans les serres l'hiver, qui sont sorties et plantées dans le jardin à partir de la fin du gel. Et du coup, l'été, c'est le moment où elles explosent. C'est un jardin assez luxuriant, fleuri.
Et on passe à l'avant-dernier jardin.
Donc le petit jardin des simples, jardin de plantes locales, qui montre les plantes classées par milieu, les plantes utiles à l'homme, qui a été créé à partir d'enquêtes ethnologiques menées dans la région dans les années 60-70. Et donc il y a plein de plantes dont on a complètement oublié l'usage actuellement, qui étaient mangées, des salades sauvages, plus d'une cinquantaine de plantes que les gens mangeaient régulièrement, des remèdes qu'ils utilisaient traditionnellement. Donc c'est un petit jardin de plantes qu'on peut trouver partout dans la nature. Donc si vous voulez reconnaître les plantes autour de chez vous, ça peut être un départ, puisque les plantes sont étiquetées.
Et le dernier donc, le dernier jardin.
Le dernier, le plus ludique, le plus facile à rencontrer, Donc c'est le jardin de senteur, un jardin avec des plantes à odeur. Donc on propose un parcours, notamment un parcours des odeurs du quotidien, où on met des plantes classées par zone de vie. Donc on a les plantes de la cuisine avec des odeurs de curry, d'épices, une plante qui sent le fromage de chèvre. On a les plantes du dessert et du café, donc avec des odeurs de fruits, de caramel. On a l'arbre à caramel qui a des feuilles qui sentent le sucre. On a les plantes du garage avec des odeurs de pneus, de goudron, qui sont pas très agréables, mais qui sont assez marrantes. Voilà, et puis on a plein de plantes à odeurs. Donc on décrit aussi les plantes par notes olfactives. Donc c'est intéressant pour comprendre comment se décompose un parfum. Donc il y a les notes de tête avec les odeurs de menthe, de citron, les notes de cœur qui sont des odeurs plus fleuries, la lavande, le jasmin. Et ensuite, on a les notes de fond qui sont les notes ambrées. On a le ciste, le vétiver, le patchouli. Là, le jardin de senteur, on invite vraiment les gens à se balader seuls et à toucher les plantes pour faire l'expérience de ces odeurs, voilà, qui peuvent provenir des fleurs, des racines, des feuilles, ou parfois du bois.
Et pour finir, il est important de noter que ces jardins de Salagon font aussi partie d'un programme de conservation des espèces.
Et oui, donc on est un jardin botanique, on est en lien avec tous les jardins botaniques du monde entier, en fait, hein, et on échange des graines gratuitement par ce biais, ce qui fait que en cultivant les graines et en se les échangeant, eh bien, on conserve les espèces. Puisque c'est du vivant, on ne pourrait pas garder les graines toute une centaine d'années sans les ressemer, puisqu'elles ne seraient plus aptes à germer. Donc on est obligé de tout le temps les planter pour récolter à nouveau des graines. Du coup, on participe à leur conservation. Donc dans les jardins, c'est important de ne pas arracher les plantes ou de cueillir les fleurs. Par contre, on est très content quand on les froisse gentiment pour toucher les matières, sentir les odeurs, etc. Et voilà, donc on a un gros frigo sec, énorme, donc une chambre froide, dans laquelle on conserve plus de 4000 espèces de plantes. Et dans le jardin, il y en a à peu près 1500 espèces. On peut se balader sans regarder les étiquettes, mais on peut apprendre un ou deux noms latins, peut-être.
En tout cas, il y a de quoi faire.
Ouais.